Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Elle aurait pu être anthropologue ou juge d'instruction, mais le foisonnement de son imaginaire l'a menée à l'écriture. Je reçois Irène Frein, romancière, historienne, enquêtrice, qui signe, avec Un crime sans importance paru au Seuil, un récit intime et social absolument bouleversant. Je dis bien récit et pas roman, on va comprendre pourquoi dans quelques secondes.
Europe 1.
Bonjour Irène Frein.
Bonjour Isabelle.
Alors chère Irène Frein, tout d'abord, vous êtes sûre d'être bretonne? Je vous pose la question parce que j'ai toujours été frappée par votre regard si incroyablement étiré en amande, qu'il a d'ailleurs un dessin presque asiatique.
Je suis née à Lorient, ville fondée pour la Compagnie des Indes au XVIIe siècle. Et Lorient s'est longtemps écrit avec une apostrophe. Et Lorient avait été fondée uniquement pour envoyer des bateaux en Inde et en Chine. D'ailleurs, petite, ma mère m'appelait la Chinoise.
Voilà. Bon, et vous avez grandi, Irène Frein, à deux pas du quai des Indes. Alors, la mer, l'horizon, les bateaux en partance, vous le viviez comme un appel quand vous étiez enfant. Vous saviez que vous feriez le tour du monde et qu'un jour, la Chine, le Tibet, l'Inde n'auraient presque plus de secrets pour vous?
Non, pas du tout. On était cinq enfants dans une famille quand même très démunie d'après-guerre, avec un père très travailleur et très rigoureux, ce qui n'était pas nécessairement le cas de tous les pères dans cette ville où il y avait beaucoup de violence conjugale et d'alcoolisme, etc. Oui. Donc ma famille était épargnée de ça, mais il n'y avait pas d'argent. On allait à la plage en quart, une ou deux fois par an, c'était deux fois, alors c'était miraculeux.
Et pourtant la mer était si proche.
Oui, elle nous paraissait extrêmement lointaine et d'autant plus désirable. Et tout nous paraissait impossible, mais en contrepartie, moi j'avais le rêve. Et j'ai été très marquée par une visite avec ma mère toute seule. Ma mère ne me prenait jamais toute seule avec elle. Et un jour, elle en a eu marre, elle était seule à la maison. Un peu une ambiance, vous voyez, une journée particulière avec Sophia Loren, marre des lessives, oui. Tous les enfants casés sauf moi. Et elle avait envie de voir cette exposition sur la Compagnie des Indes. Elle m'a emmenée et elle était fascinée et elle m'a expliquer des choses. On est monté dans une vigie très haute qui s'appelle la Tour de la Découverte. Et là, du haut, on voyait de Belle-Île jusqu'au Glénan. C'était fait pour ça, d'ailleurs, au XVIIIe siècle. Et puis, il y avait des objets de l'Inde. Et notamment, il y avait le blason de Lorient avec un vaisseau qui avait donné le nom à la ville, puisque au départ, c'était le Soleil d'Orient ou Lorient, le nom de ce bateau extraordinaire construit par les ministres de Louis XV.
Oui.
Et j'ai pas compris ce qui était écrit. Elle m'a dit, ça veut dire, c'est de l'Orient que vient la lumière. Et quand je suis allée en Inde, pour la première fois, à la suite d'un grand hasard d'ailleurs, je me suis dit, mais c'est fou, cette Inde me poursuit. Et je crois que, enfant, de façon subconsciente, j'ai toujours été attirée par l'Est.
Alors, effectivement, attiré par l'Est, vous êtes allé en Inde, en Chine, au Tibet. Ces voyages ont enrichi la plupart de vos livres. Mais celui qui nous réunit aujourd'hui est fait d'un matériau bien différent et il a une portée inattendue. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un roman, c'est un récit. Et il faut arriver à la page 60 pour comprendre à quel point le drame qui est au cœur de ce livre vous touche de près. Une femme âgée est assassinée à coups de marteau chez elle, dans l'Essonne, par un serial killer, qui est d'ailleurs toujours en cavale. Cette femme modeste est une anonyme. Alors, la justice traîne les pieds. Sauf que cette femme, en réalité, c'est votre sœur.
Oui, c'est ma sœur. J'apprends sa mort cette semaine après l'agression. Je ne suis pas au courant de l'agression. La famille ne me met pas au courant. On prévient parce qu'il faut prévenir. Et je vois dans le texte des mails précédents, qui est accroché d'ailleurs à celui qu'on m'envoie, qui est très informel, très clinique, que dans le fond, il a été question de me prévenir que la veille, quoi, pour que je ne vienne pas. Et non seulement c'est ma sœur, mais c'est ma marraine. Et je dirais même ma fée marraine, parce que sans elle, je ne serais pas là pour vous parler. Je n'aurais pas fait d'études, je n'aurais pas lu. Je n'aurais jamais rien connu à la littérature. Et Denise, elle qui était née en 39, quoi, au moment de l'ouverture de la guerre, s'était avérée très tôt une surdouée. Elle est entrée dans les années 50 à l'école normale d'institutrice.
Elle avait seulement 14 ans, c'est ça?
Elle avait seulement 14 ans. Et moi, j'ai découvert le monde avec cette sorte de protection de Denise, qui était ma marraine et qui, je l'ai compris bien plus tard, avait été ma mère de substitution et mon modèle. Je me disais, je voudrais faire comme elle, mais je n'y arriverai pas. Denise parlait peu, déjà. Elle était solitaire, mais elle faisait des gestes extraordinaires. Elle m'a offert Alice au Pays des Merveilles, elle m'a offert l'Iliade et l'Odyssée. Elle m'a emmenée au théâtre quand j'avais 15 ans, les Tréteaux de France qui venaient tous les étés, et toutes sortes de découvertes. Et elle me comprenait sans rien dire. C'est-à-dire que quand j'ai eu une soif d'écrire, mais qui était étouffée, puisque on me volait mes écrits, on les détruisait, elle n'était jamais là, Denise. Elle venait que pour les vacances. Elle avait compris ça, que j'écrivais des lettres à mes amis pour que ce que j'écris au moins à un destinataire ne soit pas détruit. Et elle m'a offert du papier à lettres magnifique. Des choses comme ça. Plusieurs fois, j'ai gardé toujours les boîtes d'ailleurs de ces papiers à lettres et je les ai toujours.
Elle a ouvert les portes. Mais alors, oui. Denise donc est sauvagement assassinée. 14 mois s'écoulent sans que l'enquête ne progresse. En fait, c'est comme si elle était classée dans un tiroir.
Elle était, oui, je crois.
Vous décidez donc de prendre la plume, d'entrer en écriture. Et vous écrivez, dans ce récit qui paraît au seuil, un crime sans importance, vous écrivez « On est tous égaux devant la mort, mais tous les morts ne se valent pas, n'est-ce pas ?»
Oui, c'est une vieille dame. C'est-à-dire que je constate que dans notre société, à travers cette histoire, puisqu'il y a eu quand même 15 autres agressions, enfin 14 autres agressions et 3 ratées, donc on est en tout à 18, deux vieilles personnes, toujours très vulnérables, ben, finalement tout ça avait été passé sous silence. Et je crois que si je n'avais pas insisté en me disant que j'étais journaliste et écrivain, je crois que tous ces dossiers seraient enfouis et en attente d'un classement. Si je vous disais que le décès de ma sœur avait été classé mort naturelle, au motif qu'elle était morte à l'hôpital. Et pour l'instant...
Alors qu'elle a été tuée à coups de marteau dans la
oui,
tête.
Oui, et pour l'instant, nous sommes en attente d'une analyse sur un prélèvement obligatoire qui avait été fait normalement sur son cerveau, et il n'a pas été fait. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert le dossier il y a quelques jours, j'ai vu qu'il n'avait pas été fait. Et il y avait des anomalies à tous égards. Et toutes ces vieilles personnes, bon, celles que je connais, parce que j'ai vu dans le dossier 5 dossiers regroupés autour de celui de ma sœur, ce sont des vieilles personnes, donc ça ne compte pas dans notre société.
Donc ça signifie, Irène Frein, que ce récit, Un crime sans importance, est une sorte de double réparation par rapport, effectivement, aux faits, à l'enquête non menée et par rapport à l'histoire de cette sœur.
C'est une réparation du silence, c'est-à-dire que dans toutes les sociétés humaines, quelles qu'elles soient, depuis la nuit des temps, depuis que la justice existe, le sang versé demande une explication. Et c'est comme ça que le droit romain s'est constitué d'ailleurs. On dit à minimum ce que pense la société. Moi j'ai été exclue par ma famille, silence total, par la police, qui s'est baladé mon avocat, par la justice, donc pas de parole. J'avais besoin du pain des paroles, j'avais besoin de l'eau des paroles.
Eh bien, justement, c'est ce que je vous offre aujourd'hui.
Merci.
Cette eau des paroles. Allez, le cheminement commence et vous allez voir que je reçois une personne absolument fascinante, Irène Frein, romancière, enquêtrice, je pourrais presque dire aventurière parce que vous allez nous emmener au bout du monde.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Irène Frein vient de faire paraître au seuil un crime sans importance. Elle est cet après-midi mon invitée. Irène Frein, cette phrase que vous avez prononcée est saisissante. « Ma mère, mon merveilleux malheur ». Toute votre vie, vous avez écrit pour atteindre votre mère, vous connecter enfin à elle. Vous avez rencontré des millions de lecteurs dans le monde, mais la rencontre avec votre mère n'a jamais eu lieu. Pour quelle raison ?
Parce que j'étais un enfant, non seulement pas désiré, mais l'enfant d'un déni de grossesse. Donc elle s'est aperçue qu'elle était enceinte, en fait, quand je suis née.
Alors, il faut dire que votre arrivée au monde, quand même, a assez mal démarré. Parce que d'abord, il y a eu ce déni de grossesse. Et puis, lorsqu'il s'est agi de vous déclarer à la mairie, eh bien, on vous a attribué le nom de la première amoureuse de votre père,
c'était
Irène.
Mon père n'est pas là. Donc, quand elle se retrouve avec ce bébé à l'hôpital, quand même, je pense que ça s'est passé chez elle.
Mais qui a choisi le nom de la première amoureuse?
Elle l'a choisi en l'absence de mon père. Elle a dit, comme j'étais donnée mourante, elle a dit, pour me venger de lui, je vais l'appeler Irène. Ça comptera pour du beurre puisque cet enfant va mourir. Donc, comme j'ai vécu très mauvais goût de ma part, Elle s'est retrouvée à devoir appeler un enfant qu'elle n'avait pas désiré, même pensé, du nom de la première amoureuse de mon père, la seule femme qui l'ait jamais aimée, mais avant son mariage. Donc c'était, elle avait développé, ma mère, une jalousie rétrospective absolument hallucinante. Et comme d'habitude, les enfants savent sans savoir. Moi, quand j'étais petite, je rêvais de porter le costume breton de Rose Bordin, dans ce qu'on appelle les kernous. Et en fait, quand j'ai compris les secrets de mon père, il n'y a pas longtemps,
que Irène venait de Cornouailles.
Elle était de là. C'est le kernous, comme par hasard. Mais les enfants, et d'ailleurs, quelqu'un m'avait offert une poupée de kernous que j'ai toujours. Ma mère, un jour, l'a balancée sur mon bureau, m'a dit « Tiens, voilà, j'ai gardé ta petite kernous avec laquelle tu jouais. » Mon père avait dû m'acheter une kernous pour mon anniversaire.
Irène Frein, vous avez donc grandi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans une famille du milieu rural, extrêmement modeste, où si on avait des sentiments, en tout cas, on ne les montrait pas, surtout pas à vous.
Alors, c'est breton, ça.
Ah bon, d'accord. Oui. Alors, dans cette famille, vous représentiez simplement le non-amour d'une mère, ce qui, bien sûr, vous a poussé à explorer, analyser, disséquer les non-dits. Mais vous étiez douée, très douée pour écrire, donc, enfant et adolescente, votre mère vous interdisait purement et simplement d'écrire.
C'est plus tard, quand j'ai commencé à publier, qu'elle m'a interdit d'écrire. Mais enfant adolescente, moi, j'étais dans une sorte d'exil intérieur, le même qui est arrivé pour le crime, c'est-à-dire le silence, le rejet, le silence. Au moment du crime de ma sœur, j'ai revécu ça. Et c'est pour ça que ça a été particulièrement douloureux. Or, le silence est mortifère, le silence vous détruit. Donc, je voulais comprendre. Je posais des tas de questions. Et très vite, à l'école, j'étais pas simplement petite fille douée. J'étais pas surdouée, heureusement, ça m'aurait isolée. J'étais juste douée, et c'est très bien. Et j'avais des tas de copines. Donc, là aussi, j'ai fabriqué la sociabilité. J'avais beaucoup d'amis. Et donc, mon domaine est devenu l'école avec les amis. Et puis, envie que la maîtresse m'aime, parce que je cherchais toujours une maman. Donc, je voulais avoir des bonnes notes pour qu'elle m'aime. Et comme mon père était fasciné par cette petite, qui était quand même, malgré ses difficultés de santé et tout, très vivace, comme disait ma mère. Ma mère m'avait dit un jour, t'es très vivace. Ça veut dire, j'ai dit, ça veut dire quoi? C'est pas facile à mourir. Bon, très bien. Et bien à ce moment-là, il y a quelque chose en moi qui était une énergie de vivre, de survivre, peut-être aussi parce que j'étais un bébé qui avait été en grande difficulté à la naissance, vous voyez. Et donc j'ai développé en moi deux choses pour vaincre cet exil intérieur de l'amour de la mère. C'était, en breton, ça s'appelle le ners. C'est l'énergie, si vous voulez, le nerf vital. Et puis, la curiosité.
Voilà, et l'imaginaire. Mais votre mère aussi était douée d'imaginaire, puisqu'il paraît que pour ses autres enfants, à qui elle savait donner de l'amour, elle était une conteuse hors pair.
Oui, elle faisait des... Elle était une conteuse à l'état natif, c'est-à-dire qu'elle revenait du marché et elle faisait un conte spontanément avec l'histoire de la marchande de poules et qui ne pondait plus. Alors moi, j'essayais de comprendre cette histoire qu'elle tissait admirablement et je me disais, ah oui, alors ça doit être comme les ouvriers de l'arsenal, le coq il fait grève, c'est un gréviste. Et les poules, alors pauvres poules, qu'est-ce qu'elles doivent être malheureuses? Alors je m'identifiais aux poules, parce que le coq ne les regardait pas et qu'elles ne pouvaient plus pondre et donc elles n'avaient plus de valeur. Donc mon sentiment de n'avoir aucune valeur, je le prêtais à toute cette basse-cour. Donc si vous voulez, je renchérissais. Et en fait, c'était un formidable appel d'air, la solitude et l'isolement, ça vous amène à faire des châteaux imaginaires, extraordinaires, puis à vouloir tout comprendre de la vie, donc à fouiner, à...
Bien sûr, mais alors ce qui est sidérant, Irène Frein, c'est que ce besoin que votre mère avait de vous nier, de vous gommer, il s'est quand même manifesté tout au long de votre carrière d'écrivain.
Oui.
Vous avez fait une entrée absolument fracassante en littérature avec Le Nabab, paru en 82, qui s'est vendu à 1 800 000 exemplaires. Et dès la sortie de votre deuxième livre, donc Bernard Pivot vous invite à Impostrophe. C'est vraiment l'émission... reine de l'époque. Oui. Et alors là, scandale, votre mère entre dans une véritable fureur. Je t'interdis d'aller à la télé.
Oui.
Une colère noire. Et même quelques années plus tard, votre mère va écrire à un éditeur.
Non, c'est pas ma mère, c'est quelqu'un de ma famille que je peux pas nommer ici.
Mais avec la complicité de votre
maman.
Ah bah
oui, maman, elle
pour demander qu'il cesse de publier vos livres.
Oui, non, de retirer un livre du marché, oui, qui était un livre autobiographique. Maintenant, j'ai compris, elle avait peur que dans la ville, il y ait des gens qui se souviennent de cette histoire d'enfant qui était arrivée à la dernière minute. Mais il y avait aussi le fait que j'étais le vilain petit canard comme dans qui était devenu un peu le cygne. Alors moi, j'avais pas l'impression du tout d'être un cygne. Ou alors il fallait l'écrire S-I-G-N-E. J'étais le signal que cette famille était quand même très dysfonctionnelle du côté des femmes.
Et alors votre carrière d'écrivain, par exemple, c'est la psychanalyse que votre mère n'a pas faite.
Peut-être. Si vous voulez, je crois que c'est un écrivain dans une famille, c'est dérangeant. Parce que c'est vrai que nous, écrivains, il faut reconnaître les choses, nous sommes anthropophages. Nous nous nourrissons de choses que nous voyons, nous entendons, que nous revisitons à notre façon. Et c'est très dérangeant aussi parce qu'un écrivain, c'est un explorateur du non-dit de nos vies. Et c'est ça la littérature. Et j'étais devenue hyper dangereuse. En plus, en France, l'écrivain, il est sacré, sacralisé.
Mais c'est un statut noble.
En France, voilà. Oui, très noble. Quasiment du haut clergé, si vous voulez. Et donc, avec une forme d'impunité, d'ailleurs, aussi. Il faut bien le reconnaître. Ou une immunité. Et donc, quand il y a quelque chose qui va mal dans une... Enfin, qui allait mal dans ma famille, c'était moi qui étais responsable de tout. Et j'étais même pas là, je menais ma vie, etc. Mais c'est elle. Et ce qui s'est passé pour ce meurtre de ma sœur, nécessairement, il ne fallait pas que je sache la vérité, mais il fallait que je sois mise au piquet, en quelque sorte.
Est-il vrai, par exemple, Irène Frey, et ensuite on devra s'interrompre un bref instant, mais est-il vrai que lorsque vous étiez présente, vous rendiez visite à votre mère, elle interrompait parfois une conversation en disant faut s'arrêter de parler, Irène Frein est là.
Oui, elle l'a fait en ma présence et celle de mon mari, on l'appelle et elle dit à son amie, je peux pas te parler, Irène Frein est là. Et à ce moment-là, ça a été terrible, j'ai eu les mêmes larmes qui me sont montées d'enfant. Et c'est là que j'ai compris, je me suis retournée par la fenêtre, j'ai serré les mâchoires, etc. J'ai évité de regarder mon mari parce que je savais que si je croisais son regard, j'allais pleurer comme un bébé. Je suis descendue et quelques minutes après, j'ai dit à mon mari qui est venu me rejoindre, est-ce que tu as entendu la même chose que moi? Il m'a dit oui. Eh bien, on va sortir, on va aller dîner ailleurs.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Chère Irène Frein, votre destin, vous l'avez pris en main très tôt, puisque à 17 ans seulement, à une époque où la majorité était à 21 ans, puisque nous sommes dans la France du général, un an avant mai 68, eh bien la jeune fille, si menue mais si déterminée que vous êtes, quitte la maison où sa mère vraiment lui interdit d'écrire pour se lancer avec jubilation dans des études de lettres classiques. Et d'ailleurs, vous obtiendrez l'agrégation. Ça a été une époque... exaltante, ça, comme une deuxième naissance.
Ah oui, absolument. Toute la joie de vivre qui bouillonnait en moi s'est complètement défoulée. J'ai beaucoup fait la crétine. À Rennes, notamment, je pense que beaucoup de mes copains de l'époque se souviennent de mes extravagances. Tout le côté, par moment, que je peux avoir d'extravagance en privé vient de là. Oui. Pendant des années, j'étais très étouffée.
Musée.
Oui, et puis il y a eu cette rencontre avec François, et là, ça a été un coup de foudre, et ça a été une histoire extrêmement forte, poétique.
C'était sur les bancs du Bocagne. Hein.
Oui.
Donc, François, votre âme sœur, qui est à vos côtés depuis 52 ans, qui vous a suivi dans toutes les expéditions autour du monde, qui vous ont servi à écrire vos livres. François, qui est le père de votre fille, et qui, à l'époque de vos 18 ans, donc, on peut dire partager avec vous une même détresse et un même sentiment d'abandon.
Enfin, dans une famille bourgeoise, mais lui, il avait plus de ressources que moi, je pense. Et donc... il avait un entourage aussi, quand même, dans cette famille. Il y avait une partie qui a été très positive, mais c'est vrai qu'on était de rejetés. Voilà. Et François avait un très grand sens intérieur de la poésie. Il était très romantique, finalement. Et l'une des choses dont je suis la plus heureuse, c'est que ma fille Hélène a gardé un sens, a développé même un sens de la poésie dans la vie assez extraordinaire, aussi bien avec ses enfants que dans la façon dont elle vit au jour le jour. Et ça, c'est des choses qui ont été transmises pendant... Je les reconnais. C'est la façon dont on vivait, François et moi. Et donc, elle fait un métier de designer qui est extrêmement contraignant dans une société américaine, en Californie, donc c'est pas du tout poétique. Mais elle a toujours gardé ce noyau profond de poésie. Bon, c'est une artiste, évidemment, parce qu'on peut pas faire ce métier si on n'a pas cette fibre-là. Et aussi, elle a un sens littéraire inouï.
Dont oui. Elle ne s'est jamais servie.
Non, elle, son matériau d'expression, c'est de créer des objets. Donc d'accord. Chacun le sien. Et d'ailleurs, elle a m'a mis sur la voie de la compréhension de ce meurtre de ma sœur avec un exemple qu'elle a sorti du design. Alors, je ne dis pas lequel au lecteur, voilà. Mais elle m'a appris ce que c'était un espace négatif et ça s'expliquait complètement à la compréhension de ce meurtre.
Pour ça, il faut plonger dans Un crime sans importance qui vient de sortir au Seuil. Alors, revenons à vous, chère Irène. Votre première vie, avant de vous consacrer exclusivement à l'écriture, fut celle d'un professeur de lettres qui enseignait le grec et le latin.
Et le français, bien sûr. Oui.
Alors, hélas, depuis les dernières réformes en 2016, les élèves qui choisissent les options latin ou grec pour le bac sont rarissimes. C'est un immense pan de notre culture qui disparaît. Ça, c'est la colonne vertébrale, en fait, de notre culture qu'on efface.
Oui, les mots, et tous ces mots qui nourrissent notre langue, ils ont un sens extrêmement précis, nourrissent notre représentation du monde. Quand vous prenez le mot qui a donné le droit, juridique, judiciaire, juge, etc., c'est « ius ». Mais qu'est-ce que c'est « ius » ? C'est la formule magique qui permet de conjurer le mal qu'on a fait à l'univers en versant le sang. Et ça se passait en 800 avant Jésus-Christ. Et c'est à partir de ça qu'on a inventé ce que c'est que la justice, etc. Et que nous fonctionnons encore dans les tribunaux avec ces principes des Romains. Voilà. Et la justice, elle continue de dire le droit. C'est l'expression. On prononce un jugement. Le juge le prononce à haute voix. Et quand on voit que la justice ne vous répond pas, on voit très bien à ce moment-là, on comprend que le silence peut être mortifère. Donc pour comprendre notre monde, il faut interroger les mots, et les mots quelquefois sont anciens, donc on n'est peut-être pas obligé de faire du latin pendant 7 ans comme on en faisait avant, mais un minimum bien permet de comprendre le monde où on vit. Et c'est pareil pour le grec, donc on est en train de se couper, on fait de nous et de nos enfants et petits-enfants des enfants sans racines.
Alors, par exemple, Irène Frein, aujourd'hui, si les lettres classiques que vous avez enseignées dans votre première vie, vous deviez les enseigner, imaginons que vous êtes un prof de 30 ans, aujourd'hui, comment l'envisageriez-vous, cet enseignement ?
Je commencerais à faire l'histoire du peuple romain ou grec, selon ce que j'enseigne, le latin et le grec, je les précipiterais dans cette société et... Je dirais, nous allons voyager dans l'hyperespace des siècles et nous venons de cette planète et je ferai ça comme Odyssée de l'espace. Et après, on prendrait les mots, les uns après les autres. J'ai adoré enseigner, je suis prête à recommencer. Vous
c'est vrai ?
Oui.
Parce que justement, je voulais savoir, vous vous souvenez du jour où vous avez pris la décision de renoncer définitivement à l'enseignement pour ne plus vivre que de votre plume ?
Je m'en souviens comme c'était hier. C'est en 1986, je suis au lycée Jacques de Cour et pour peut-être la 15e fois, je pense que j'enseignais depuis 15 ans, je suis en train d'écrire au tableau comment on comprend l'ablatif absolu qui est une formule grammaticale du latin. Et à ce moment, l'intuition me traverse que ces enseignements-là, ils vont être complètement laminés, etc. Et je me dis, j'aime enseigner. Et je dis non, il y a plusieurs vies dans la vie.
C'est le titre de cette émission. Hein.
Voilà. Ah ben genre, je ne savais même plus. Il y a plusieurs vies dans la vie, et bien j'en veux une autre maintenant. J'ai beaucoup donné à l'enseignement. J'ai enseigné jusqu'au niveau du CAPES le latin à des étudiants étrangers
à la Sorbonne,
etc. Et j'ai décidé de mettre en disponibilité, et disponibilité qui au bout de 6 ans s'est transformée en démission. Mais ça, vous savez, ce qui a fait que je suis une petite pensionnée en face de vous, de l'éducation nationale. Je crois qu'on doit me donner 700 euros, même pas par mois, pour mes services rendus à l'éducation nationale. Mais voilà, j'ai eu des élèves qui ont fait des choses. J'ai eu notamment comme élève Laurent Fignon,
oui.
Qui était considéré comme l'athélo du Tour de France,
oui.
Au motif que je lui avais donné le goût de la lecture. Il était nul au début. Je le revois très bien dans cette classe de seconde avec son pull rouge éternel et ses yeux très bleus. Et a l'air un peu perdu. Et il a lu. Et je sentais aussi que j'étais un professeur qui, par rapport aux normes qui s'imposaient dans l'éducation nationale,
avait déjà une certaine fantaisie.
Oui, c'est-à-dire qu'un peu plus, ça aurait peut-être pas tourné au cercle des poètes disparus, mais il y avait un tout petit peu de ça qui n'était pas très bien vu par mes collègues. Et donc, il fallait que je me casse. Excusez-moi.
En tout cas, ce ne sont pas vos lecteurs qui en ont été contrariés. On retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Un crime sans importance vient de paraître au Seuil. Je reçois son auteur, Irène Frein. Irène Frein, est-ce qu'un écrivain finalement est quelqu'un qui est mécontent du réel ?
Oui, voire en colère. Et qui
voire
veut...
en colère.
Oui, puis aussi qui a envie aussi de le réenchanter. Le réenchanter, c'est lui donner un sens. C'est parce qu'à un moment, on est obligé d'en passer par là, sinon soi-même, on ne survit pas. C'est-à-dire devant le meurtre de Denise et ce silence, voilà. je n'aurais pas survécu. Et souvent, la difficulté d'écrire, c'est que ces vérités, elles demandent place, mais nous ne connaissons pas leur nature. Et nous en défendons aussi. Nous faisons un déni et nous voulons écrire par rapport à notre entourage certaines choses ou certaines autres. Et la vérité est implacable. Elle va nous tourmenter jusqu'à ce qu'elle soit là. Et moi, le moment dans l'écriture que j'aime, c'est que lorsque la page ou la phrase sonne juste comme un cristal en musique ou un instrument parfaitement accordé. Et à ce moment-là, je suis émue. Et vous remarquerez que le mensonge ne suscite jamais de larmes. La vérité suscite toujours des larmes. Mmh. Il n'y a que la pratique artistique qui permette le surgissement de la vérité.
Pratique artistique, mais j'ai envie de dire quand même, vous auriez pu être anthropologue, vous auriez pu être juge d'instruction.
Oui.
Bon, vous êtes écrivain, Irène Frein, vous êtes une conteuse d'histoire. Or, histoire vient du grec ancien qui signifie enquête.
Absolument,
pas
mais voilà. C'est pas hasard. Le jour où voilà. Je l'ai compris, je me suis bénie de connaître le grec. Et au-delà de ça, ça vient d'une racine qui veut dire « je sais parce que j'ai vu ». C'est-à-dire l'histor, celui qui raconte, l'historien, c'était le témoin. Il avait vu, donc il pouvait dire ce qui s'était passé. Et vous avez aussi le juge d'instruction, mais chacun a sa méthode. Le juge d'instruction, il est prisonnier d'une procédure. L'historien, eh bien, là, c'est très rigoureux, la méthode historique.
L'écrivain n'est prisonnier de rien.
Voilà. Alors, en fait, dans l'écriture, il y a la liberté. C'est-à-dire que c'est une très grande rigueur, entendons-nous bien, la liberté. Parce que la liberté, ça ne veut pas dire je ne fais n'importe quoi, ce qu'ont trop tendance à penser nos jeunes générations.
Justement, pour chacun de vos livres, Irène Frein, que ce soit des récits d'aventure, des biographies, vous avez toujours mené des enquêtes très approfondies, dont certaines vous ont entraîné au bout du monde, en Chine, en Inde, au Tibet, ou même dans des îles oubliées de l'océan Indien. En fait, vous n'êtes pas seulement un écrivain et un enquêteur, vous êtes une aventurière.
Oui, j'aime voir, parce que je veux aller sur place. Et je vais vous dire, j'ai fini aussi par comprendre pourquoi. Eh bien, j'aime aller respirer l'air des lieux dans lesquels ont vécu les gens. Et parce que je pense que l'odeur est un moyen intuitif de comprendre les univers. Et donc, quand je respire le même air, je commence à comprendre ce qui se passe.
Alors, par exemple, et là, je vais vous demander de choisir, le voyage le plus improbable, le plus fou, le plus magique, dont peut-être vous auriez pu ne pas revenir, ce fut lequel ?
Ce fut vraisemblablement partir sur les traces de Joseph Roch jusqu'à des vallées très acrobatique, 5500 mètres, sans me retrouver
dans
sur
les montagnes tibétaines.
Oui, me retrouver sur un cheval du jour au lendemain, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, je n'avais jamais fait de cheval, avec des guides chinois qui complètement trahis. On s'est retrouvés sans nourriture à un moment, où nourriture très, très, très improbable, avec une température de 2 degrés, pas vraiment équipée, et l'éditrice qui avait absolument voulu m'accompagner, qui commence à faire le mal de montagne. C'est une vallée où il n'y avait pas d'hôpital à moins de 1000 kilomètres. Enfin, c'était perdu qu'on peut pas imaginer comme perdu. Et je lui dis, mais est-ce que vous avez vu un médecin avant de partir? Oui, mais j'ai une phlébite rare, me dit cette dame. Et elle était plus âgée que moi, qui avait quand même déjà 54 ans. Et je lui dis, vous avez parlé de cette phlébite rare au médecin. Alors, on est sur des petits chevaux tibétains, on a des sacs à dos.
Et elle lui dit, ah non, je n'ai pas
et pensé à ça. Quand je finis la phrase, avant même de l'avoir finie, je sais que la réponse est non. Et elle me dit non. Et je me dis, là, ma fille, pour un livre, tu vas peut-être ramener un cercueil. Est-ce que ça vaut le coup?
Est-ce que la littérature vaut ça?
Au bout d'une nuit, passée dans une tente envahie par de l'eau glacée, à essayer de dormir sans pouvoir le faire sur des valises ou des sacs, et avec une petite tourista de grande ampleur, j'ai
tout
décidé
ça à plus de 5000 mètres d'altitude.
Et quelqu'un qui pouvait mourir dans les 24 heures, j'ai décidé que non, que la littérature ne valait pas ça. Ça a été la grande préoccupation de cette nuit-là, la plus longue de ma vie. Et bon, on a réussi avec mon mari à sortir de là. C'est une autre affaire que j'ai racontée dans un livre qui s'appelle « À la recherche du royaume ». Mais
oui, parce qu'en fait, ce voyage, c'était pour partir sur les traces d'un royaume gouverné par des femmes qui étaient des Amazones, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'était pas comprendre ce qui avait inspiré cet explorateur austro-américain, Joseph Rock, très célèbre aux États-Unis, grand photographe du National Geographic et surtout grand décrypteur d'une langue inconnue, la langue des pictogrammes nashi, à se lancer dans cette aventure que n'aurait pas faite Alexandra David-Neal, qui connaissait d'ailleurs. Elle n'aurait jamais fait ça. Et j'ai voulu refaire son parcours pour comprendre qu'est-ce qu'il avait pris de partir comme ça avec 12 jeunes hommes de l'ethnie Nashi à chercher cette reine des femmes et à pénétrer dans ce royaume. Bon, et c'était une parabole aussi parce que...
En fait, le royaume, il n'existe pas.
Il avait existé, mais 1000 ans avant. Et les restes s'en trouvaient à son point de départ au Yunnan. Donc c'était aussi une parabole sur la vanité des choses de ce monde. Et il a raté son rêve de célébrité et de gloire. Il voulait battre évidemment Alexandra David-Neal.
Et finalement, vous avez décidé d'écrire plutôt sur lui.
Oui, parce que c'était plus intéressant que... On connaît, tout le monde connaît la vie d'Alexandra David-Neal, mais lui non. Et ça se terminait d'une autre une façon qui correspondait à... Le peu de philosophie que je peux avoir, c'est que d'abord, on va chercher très loin ce qui se trouve devant nos yeux, et qu'il avait fini par comprendre que cette recherche de gloire était vaine au regard de la préservation de la culture absolument phénoménale de ces Nashi. Et il a consacré le reste de sa vie à déchiffrer leur écriture, à figer leur culture, dont il avait compris qu'elle serait détruite par les Chinois. Et cet homme a compris que préserver la nature, c'était aussi préserver la culture, et que ça valait être mieux que de devenir célèbre.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Irène Frein, qui fait paraître au Seuil un crime sans importance, est aujourd'hui mon invitée. Alors, Irène Frein, il n'y a pas que les voyages pour ciseler l'imaginaire de l'écrivain enquêtrice que vous êtes. Tout à l'heure, dans la conversation, vous avez évoqué Marie Curie. Justement, j'aimerais qu'on revienne sur le travail qui est le vôtre sur les documents rares, comme des manuscrits, une correspondance, ou, en ce qui concerne Marie Curie, une comptabilité. Oui. Parce que vous avez quand même réussi à vous immerger dans la comptabilité de l'une des femmes les plus fascinantes et mystérieuses du début du XXe siècle. Donc Marie Curie, prix Nobel de physique et de chimie. Marie Curie qui, en 1898, a découvert le radium et dont on pensait qu'elle était un pur esprit insensible aux émois du cœur. Bon, votre enquête, menée pour écrire d'ailleurs Marie Curie prend un amant, a prouvé tout le contraire.
Oui, c'est-à-dire que Marie Curie avait un affect très fort, comme tous les surdoués, ce qui les rend d'ailleurs quelquefois difficiles à intégrer dans des groupes. et sont des gens souvent souffrants. Et elle était prodigieusement romantique, et, mais elle avait un corps. Et ce corps, d'ailleurs, a joué un grand rôle dans la découverte de la radioactivité, parce qu'elle en a soulevé des kilos et des kilos de matériaux radioactifs. Hein, c'est pas son mari qui le faisait, c'était elle. Et c'est d'ailleurs une femme qui ne mettait pas de corset, bien avant Chanel et Poiret, voilà. Parce que, bah, elle était comme les travailleuses de force. Et elle avait une sexualité forte et qui était très, très liée aux sentiments amoureux. Rien n'était dissocié en elle. Et donc, j'ai découvert dans un livre exécrable, qui est pas un livre d'ailleurs, des petits journaux reliés dans une brocante et qui dénonçait sa liaison avec Langevin et enfin des termes effroyables.
Alors faut préciser que Paul Langevin, donc l'élu de son cœur, était Dreyfusard.
Il était
donc c'était une période
très compliquée.
Très compliquée et on a amené toute une cabale politique contre elle. On s'est servi de Marie Curie.
Et donc c'était aussi l'ancienne élève de Pierre Curie. Donc elle était veuve et donc on l'a accusée d'être une veuve noire qui détruisait une mère parce que qui avait eu des fils, fils promis bien entendu à faire chair à canon. C'était une période ultranationaliste, enfin, donc c'était les pacifistes contre les nationalistes. Donc pour ne pas avoir attaqué Langevin et les Dreyfusards,
on a attaqué Marie Curie.
La femme. Hein, je veux donc j'ai découvert que sa maison a été saccagée et lapidée et que tout ça, c'est on a dit qu'elle était juive, elle a dû être obligée de se défendre de ne pas l'être, alors qu'elle considérait que tout le monde était égal et que la France était d'ailleurs un pays de liberté, d'égalité.
Oui, une terre d'accueil.
Une terre d'accueil. Enfin, toutes sortes de choses abominables. Et donc, en voyant ça, je me dis, je ne savais pas que Marie Curie avait eu un amant. Et je me dis, est-ce que c'est vrai ? Et j'ai découvert une femme, mais beaucoup ou mieux, une femme exceptionnelle. Donc, je me suis dit, il faut que je prouve ça. Parce que... Et je me suis dit, une femme amoureuse, c'est d'ailleurs sans doute comme un homme amoureux, ça dépense plus que d'habitude. Et en regardant la liste des archives, je m'aperçois qu'il y a toute la compta de Marie Curie à la BNF. Bon, je vais là-bas, à la BNF, on me donne l'autorisation.
C'est-à-dire que... Robe.
Ah ben oui,
ou c'est-à-dire
qu'à un moment, ça explose. Moi, je commence à faire des statistiques. Et ça explose. Et je vois parfum, robe blanche, alors qu'on me l'a toujours montré en noir. Et de fil en aiguille, j'arrive à dater toute la période de la liaison, et etc. Parce que Marie Curie, en plus, je trouve l'adresse du nid d'amour, si j'ose dire. Alors j'y vais, il y avait des codes, je range. Et à partir de ça, j'entame une reconstitution en croisant avec la presse les rapports de police, parce qu'il y avait beaucoup de choses conservées aux archives de la police, les écrits qui pouvaient rester. Et si vous êtes minutieux, vous arrivez à comprendre ce qui s'est passé.
C'est fabuleux. Mais alors, Irène Frein, votre mari, dans vos enquêtes à la Sherlock Holmes, est-ce que je peux dire qu'il est votre docteur Watson ? Il vous épaule, ben parfois il vous aiguille.
Par moment, il me dit « tu dérailles ». Tu vas trop loin. Et il apporte aussi son regard, son bon sens. Il est je pense qu'un de mes charmes dans ses yeux, c'est que je suis profondément, par moments, totalement illogique dans certaines choses. Mais c'est aussi que je suis très intuitive. Alors, quand je sens que je vais déraper côté logique, je lui demande une consultation. Mais je l'amuse beaucoup, je le fais rire, c'est pour ça que ça a duré.
Bon, il faut rappeler que vous avez rencontré votre mari en
Bocagne,
dans la prépa d'un lycée de Rennes qui donnait sur la rue des livres. Voilà, il ne faut jamais contrarier le destin.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h... avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Irène Frein, vous, la Bretonne pur jus, née à Lorient sur une terre venteuse, balayée par les embruns, eh bien vous avez choisi comme port d'attache la région la plus réconfortante et douce qui soit, la campagne du Vendômois, donc tout près des paysages de Touraine avec les méandres de la Loire, ses forêts, ses manoirs, ses vignes, sa pierre de Tuffaut, ses châteaux d'un autre temps. Voilà, Ronsard, Balzac adoraient cette terre-là. Elle est faite pour les écrivains.
Ah ben c'est formidable parce que je suis à l'orée d'un petit village dans une maison très ancienne et avec une petite partie troglodyte. C'est un endroit qui a été fondé au haut Moyen-Âge. Il y a des restes encore de pressoirs dans la craie, il y a des souterrains.
Ah oui.
Il y a une sorte de déesse étrange qui est sculptée dans un mur. Et c'est une maison, pour le reste, où c'est la partie où j'habite, du 18e siècle et 19e siècle. Et qui a eu des successions de gens qui ont habité. Je connais les gens, je connais l'histoire de cette maison. Et donc là, il y a aussi des odeurs apaisantes qui changent selon les saisons. J'ai fait évidemment peindre la mer quand même sur le mur qui fait face à mon bureau parce que...
Pas renier ses origines.
Ah oui, le fort bloqué est en face de moi. Le fort bloqué qui est présent d'ailleurs dans Un crime sans importance où j'allais beaucoup avec ma sœur. Et si vous voulez...
C'est à l'ombre, en fait, des murs de cette vieille demeure que vous écrivez.
J'écris beaucoup là-bas. Je peux écrire n'importe où, mais là-bas, je me rassemble. Je me répare. Cet été, avant la sortie du livre, j'y ai passé beaucoup de temps, 3 mois. Et donc, je me rassemble, je me répare. J'ai l'impression que cette maison est bienveillante et guérisseuse.
Alors dites-moi, lorsque votre fille, qui vit aux États-Unis, je crois en Californie, vient vous rendre visite dans le Vendômois, elle change de siècle.
Oui, elle change de siècle. Mais je lui envoie beaucoup de photos en ce moment parce que c'est terrible en Californie, entre les incendies abominables et puis le virus. La vie en télétravail
est
très dure. Et donc, elle n'a qu'une idée, c'est d'arriver là et qu'on fasse une grande fête. Et puis, surtout, c'est une maison où on dort. Et je crois que tout l'organisme se répare naturellement dans ce silence.
Je parlais de votre fille à l'instant. Votre fille vous a fait grand-mère à 41 ans. C'est pas courant d'être grand-mère à 41 ans.
J'ai mon petit-fils aîné, il a 28 ans. Oui, c'est un artiste
incroyable.
Aussi. Oui, c'est formidable parce qu'on a une vigueur incroyable pour faire des tas de choses. Donc, je lui avais écrit à l'époque un livre qui s'appelait La Fée Chocolat.
Oui.
Qui est toujours lu par les enfants.
Ils sont édités, ces contes-là on peut les trouver en librairie
hier,
très
facilement. Hier, on m'a envoyé la photo d'une petite fille, je l'ai là sur mon porte.
En train de lire La Fée Chocolat.
Oui, et très fière. Les gosses adorent parce que ça ne parle que de très bonnes choses.
Mais alors, pour votre petit-fils Paul, j'imagine que, puisqu'il a grandi aux États-Unis, il a fallu mêler la littérature anglo-saxonne à la littérature française pour éveiller son imaginaire. C'était un défi intéressant.
C'est pour lui un défi intéressant. Et là, il est revenu des États-Unis pour quelque temps. Et hier, il m'a dit, je serai pas là la semaine prochaine. Et il m'a dit, mais où tu vas ? Je lui ai dit, en Bretagne. Et il veut que je sois là. Oui, c'est merveilleux. Je lui ai dit, j'adore que tu me dises ça. Je ne suis pas du tout fâchée parce que, voilà, je sens que tu tiens à moi et j'aime que tu sois possessif avec ta grand-mère.
Chère Irène Frein, Un crime sans importance vient de sortir au seuil. Bon, j'espère que l'enquête, qui finalement, on va dire, a été relancée grâce à vous, va arriver au coupable. Mais dans quel univers êtes-vous plongée en ce moment ? Est-ce que le prochain livre est déjà presque née ?
Écoutez, je suis une fille qui se répare. Je lis des livres parce que ça me fait du bien. Je me laisse aussi un peu vivre parce que je suis encore fragile, parce que j'ai été dans la zone de l'effroi. J'ai lu des choses terrifiantes. Je croyais que Polanski, Hitchcock, Fritz Lang, ils avaient de l'imagination. Non, ils tirent les choses du réel. Et j'ai été préservée par ce silence. Il a été de la justice, de la famille et de la police. La justice et la police pensaient que je ne pouvais pas écrire sur cette histoire parce que je n'avais pas le dossier. Eh bien, très bien. Ils n'avaient rien compris à ce que c'est que la littérature. Je n'ai pas écrit sur le dossier, j'ai écrit sur ce qu'éprouve quelqu'un quand il est privé d'explication sur la mort violente de quelqu'un. Et dans le fond, ça m'a fait grandir. Et maintenant, j'ai été effectivement ces derniers jours confrontée à l'horreur. Je me dis qu'il faut regarder cette horreur. Elle fait partie de la vie, ne serait-ce que pour que justice soit rendue à toutes les victimes, aux 18 victimes. Elles ne sont pas toutes mortes, elles ont toutes, je pense, survécu, sauf ma sœur. Si ça peut les aider, tant mieux. Et la vertu de la littérature, c'est aussi d'aller là où on vous dit qu'il n'y a rien à faire, parce qu'il y a tout à faire. Et grâce soit rendue à la presse, à la radio, aux médias et aux textes écrits, à la littérature, dans un pays où il y a une démocratie pour la liberté d'expression, parce qu'à un moment, on peut dire les choses et on peut faire valoir finalement le droit qui est indivisible pour tous les citoyens. Moi, je me suis demandé pendant toutes les formes de tout ce silence, comment font les autres qui n'ont pas l'écriture ? Et d'ailleurs, quand j'avais posé cette question à mon avocat, il m'avait dit « Madame, malheureusement, souvent, ils s'écrivent un cancer. » Eh bien, l'eau est le pain des paroles. Et on a tous besoin pour vivre. Parlons-nous, écoutons-nous et aidons-nous les uns les autres à vivre.
Le destin est la forme qu'on donne à son désir. Je sais que vous aimez cette phrase. Oui. Et bien voilà, vous y êtes parvenue magnifiquement. Je vous remercie infiniment, Irène Frein.
Merci Isabelle. Merci de votre écoute et de votre compréhension.
Et je vous dis à bientôt.
À bientôt, Isabelle.